L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
En ce début d'année, le président du conseil départemental de la Mayenne s'impatiente de la lenteur de la campagne de vaccination. Olivier Richefoux, bonjour. Vous demandez instamment donc que l'on passe la vitesse supérieure.
Oui, je l'ai déjà demandé hier lors, bien évidemment, des premières vaccinations qui ont eu lieu, parce que d'autres départements ont commencé avant nous. Mais je trouve inacceptable, je l'ai dit dès hier à M. le préfet et à l'Agence régionale de santé, que certains EHPAD soient livrés le 27 janvier, dans presque 3 semaines. On ne peut pas dire que le public des EHPAD est un public prioritaire et attendre la fin janvier pour avoir ses premières vaccinations. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut accélérer vis-à-vis de ce public prioritaire.
Après un lancement un petit peu médiatisé, jeudi 7 janvier, la vaccination a démarré vraiment, démarre vraiment ce vendredi, le 8 janvier.
La plupart des EHPAD, en dehors des EHPAD hospitaliers, qui commencent aujourd'hui en effet, commenceront la plupart pour le 19. Et le 19, il n'y en aura qu'un quart qui seront déjà mis en œuvre en termes de vaccination. Et donc le plus gros des EHPAD, c'est entre le 19 et le 27, ce qui est beaucoup trop tardif, puisque le 27, je vous rappelle, c'est dans 3 semaines, enfin, et c'est la date de livraison dans la pharmacie des vaccins. Ensuite, il faut que le vaccin aille de la pharmacie à l'EHPAD, mais ça peut prendre un jour ou deux, c'est pas très grave, mais c'est encore un jour ou deux de plus.
Ce sont 4500 résidents qui sont concernés hein, dans les EHPAD.
Oui, on a 4500 résidents dans les EHPAD. Moi, je sais que dans les premiers EHPAD qui ont consulté, il y a un taux de l'ordre de plus de 90% d'acceptation, et ce qui est normal et ce qui est très bien, donc la plupart des résidents en bénéficient. Et puis, il faut que vous ajoutiez les personnels qui sont aussi concernés, et on sait qu'on a à peu près 1500 personnels concernés à ajouter à ces 4500.
Est-ce qu'on sait comment va se gérer le fait que ces vaccins ne soient pas obligatoires et par exemple les personnes en EHPAD qui refuseront le vaccin, est-ce qu'elles seront mises à l'isolement ?
Je vous encourage à lire le guide de 45 pages qui a été établi, en tout cas moi je l'ai lu, et il est indiqué très clairement qu'il n'y a aucune différence de traitement qui sera réalisée. Ça veut dire qu'une personne en EHPAD qui aura refusé pour des raisons qui lui sont propres de se faire vacciner se comportera de la même façon qu'une personne qui aura été vaccinée.
Est-ce que la solution, ce serait que le département achète lui-même les vaccins, finalement, comme vous l'aviez fait pour les masques ?
Non, je ne crois pas que ça soit la solution. D'abord, sur le marché, il n'en existe pas, ou peut-être au marché noir, et en tout cas, ce n'est pas le sens de l'histoire. Il faut laisser aux professionnels de santé le fait d'acheter ces médicaments. Nous ne sommes pas là pour acheter des médicaments. En revanche, ce que nous demandons, c'est à être sollicités et à mettre en place nos moyens à disposition de toute la chaîne logistique qui doit être mise en œuvre. J'ai proposé aussi que nous puissions être associés à la communication. Donc j'attends avec impatience, mais ça va venir, j'en suis sûr, que nous puissions l'être, car nous avons cette capacité à accompagner les campagnes de communication, parce que je souhaite que nous soyons un des premiers départements, et pourquoi pas le premier département de France, à être le plus vacciné. Voilà l'ambition qu'il faut que nous portions tous.
Et cette campagne de communication, comment pourrait-elle s'envisager, d'après vous ?
Une campagne de communication qui met en avant pas seulement des soignants qui se font vacciner, mais aussi, par exemple, me semble-t-il, des personnes de la société civile, des sportifs, des personnes emblématiques par leur responsabilité en Mayenne de la société civile, qui effectivement expliquent la raison pour laquelle ils se font vacciner. Je pense que ça peut avoir un phénomène d'entraînement efficace.
Ouais, pour rester dans ce domaine de l'épidémie, vous semblez plutôt inquiet pour les entreprises.
Oui, bien sûr, on a vu déjà les effets à la fin de l'année 2020 avec l'augmentation du taux de chômage. Et je crains que ce taux-là progresse en 2021 parce que notre économie a été sous perfusion. Notamment les activités fermées, je pense aux restaurateurs, au monde de la culture qui souffrent de cette fermeture, qu'ils ne comprennent pas toujours et on peut bien sûr être à leur côté en ces circonstances, mais financièrement le quoi qu'il en coûte aura ses limites. Et à un moment donné, ils vont devoir faire face à des engagements financiers qui seront sans doute difficiles à assumer. Et je crains que nous ayons un chômage qui progresse et donc des situations qui vont devenir difficiles et nous attendons à une augmentation des dépenses sociales. On a déjà noté une augmentation, d'abord une fréquentation de un peu plus importante de nos antennes solidarité que nous avons réparties sur tout le territoire. Et puis sur la mesure très précise du RSA que nous distribuons, si j'ose dire, pour le compte de l'État, nous avons progressé de l'ordre de 18% en termes de nombre d'allocataires, ce qui a représenté financièrement à peu près 4 millions d'euros de plus, 4 à 5 millions de plus de dépenses rien que sur l'année 2020. Donc vous imaginez qu'en 2021, avec une progression un peu plus importante, ça sera à nouveau un effort financier Nous le ferons bien sûr. Ces millions, certes, ils seront utiles puisqu'ils vont venir en aide à des personnes qui en ont besoin, mais c'est les sommes que nous aurions pu investir sur d'autres projets vraisemblablement.
Olivier Richefou, il se murmure que vous pourriez être candidat à la succession de Dominique Bussereau à la tête de l'Association des présidents des conseils départementaux.
Je suis d'abord heureux d'être un acteur engagé en tant que membre de la commission exécutive de l'Assemblée des départements de France aujourd'hui. J'y joue à côté de Dominique Bussereau un rôle important, en tout cas je le crois. Dominique Bussereau va cesser son mandat puisqu'il ne se représente pas dans son département. Et si la majorité des départements est encore une majorité de droite et du centre, je serai candidat à la présidence. Je ne serai peut-être pas le seul. On en discutera entre candidats potentiels. Vous savez, on a encore un peu de temps. L'élection sera le 20 juillet. Et il faut d'abord que l'élection départementale ait lieu. Donc, pour l'instant, l'objectif est d'abord de préparer, à partir du mois de mars, l'élection départementale.
Quel est l'intérêt ?
L'intérêt pour moi, c'est de, d'abord, ça représente un peu plus une vision pour la Mayenne, qui est un peu plus visible à l'échelon national. Et puis, c'est un engagement supplémentaire de montrer tout l'intérêt que représente la strate départementale pour être au plus près du service des habitants.
Pour l'instant, sur ces élections à venir, départementales et régionales, le calendrier n'est pas très très clair.
Non, il n'est pas très clair puisqu'on a un projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres qui prévoit une élection fin juin. Mais ce projet de loi, d'abord, n'a pas été discuté ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale. Donc première étape supplémentaire qui n'est pas franchie encore. Et puis la deuxième étape qui ne sera franchie que fin mars, c'est que le projet de loi prévoit une clause de revoyure sur le plan sanitaire, ce qui n'est pas illogique, à fin mars. Et donc ce n'est qu'à fin mars qu'on aura une connaissance parfaite de ce calendrier.
Ça va être un petit peu compliqué. Si jamais ces élections sont repoussées, ça risque de bousculer tout l'agenda électoral jusqu'au présidentiel.
Alors si malheureusement les élections n'ont pas lieu au mois de juin, d'abord ça sera le signe que la situation sanitaire ne s'est pas améliorée dans notre pays. Et ça c'est dramatique, parce que je ne crois pas qu'on puisse durer éternellement dans la position où on est aujourd'hui. Donc il faut d'abord souhaiter que la situation sanitaire, bien sûr, s'améliore. Et c'est la raison pour laquelle la vaccination est sans doute indispensable et même certainement indispensable. Mais on imagine que si l'élection n'avait pas lieu au mois de juin, il serait difficile sans doute de la faire en septembre-octobre. On n'imagine pas des campagnes électorales au mois d'août. Que la fin d'année ensuite, on va se rapprocher de l'élection présidentielle. Et on pourrait peut-être dans ce cas-là, sans faire de politique fiction, imaginer qu'elle ait lieu après les élections présidentielles, ce dont pourraient rêver certains partis politiques qui ne sont pas au mieux de leur forme actuellement.
On va revenir, si vous le voulez bien, sur un sujet plus réjouissant, c'est la perspective de l'étape du Tour de France qui s'arrêtera à Laval.
Alors d'abord, on répare une injustice. Ça faisait 22 ans que le Tour de France n'avait pas fait étape en Mayenne. Et le cadeau que fait Christian Prudhomme, c'est un patron d'ASO, c'est le cadeau de nous donner un contre-la-montre individuel, qui est l'épreuve reine, qui est l'épreuve que toutes les communes veulent avoir, puisque les trois quarts des candidatures de ville, c'est pour avoir un contre-la-montre individuel. Et on l'a en plus juste après les quatre étapes bretonnes, donc à un moment donné où il y aura un vrai suspense. Donc vraiment, c'est une vraie chance que Christian Prudhomme, en partie grâce aux relations de confiance qui existent entre nous depuis de nombreuses années, et fait cette confiance parce qu'il sait aussi que les Mayennais seront bien sûr se mobiliser. Donc une très belle date à retenir, c'est bien sûr le 30 juin, un départ de Changé, une arrivée à Laval, espace Mayenne, et puis 27 km autour de Laval.
Et puis un dernier petit mot de sport, un petit coucou à Maxime Sorel.
Oui, c'est le premier événement pour moi important de l'année 2021. C'est sans doute la première semaine de février, c'est trop tôt encore pour le savoir, l'arrivée du bateau VNB Mayenne et de son skipper légendaire, j'allais dire, de son dragon, qui est Maxime Sorel, qui a vraiment fait une course remarquable. Monté trois fois dans la même demi-journée en haut du mât pour prendre des voiles, les réparer, les raccrocher, arriver à relever son bateau dont les voiles touchaient l'eau dans une autre séquence, c'est vraiment des exploits fantastiques. Il est dixième pour un bateau qui a 13 ans d'âge. C'est comme si une équipe de nationale était en train de jouer en Ligue 1. Voilà, donc on a aujourd'hui une très belle réussite. Et moi, je suis surtout très heureux de l'engouement qui existe. Plus de 200 classes suivent Maxime tous les jours. 200 classes dans les écoles de la Mayenne. Et on a plus de 5000 Mayennais qui ont un bateau sur la régate virtuelle qui est mise en œuvre, où il y a plus d'un million de personnes, près d'un million de personnes. Donc il y a un engouement qui est national. Et je crois que la promotion de la marque Mayenne, elle est parfaitement réussie et qu'on a parfaitement réalisé notre objectif.
Un dernier petit mot, Olivier Richefou, la Légion d'honneur.
Oui, merci. C'est une belle reconnaissance du ministre de l'Intérieur pour mon engagement, certes depuis de nombreuses années, au service des Mayennais. C'est à tous les Mayennais que je le dois et puis sans doute un peu plus à nos amis pompiers puisque j'ai un engagement, vous le savez, national depuis 5 ans sur ce dossier. Donc merci à Monsieur le ministre de l'Intérieur et merci à tous les Mayennais aussi parce que si je suis là, c'est grâce à eux.
Voilà, c'est encore une occasion de parler de la Mayenne. Alors félicitations et merci beaucoup Olivier Richefou.